Quand t'es au milieu de l'Antarctique, t'es dans un univers qui est dangereux. On essaye de toujours un petit peu dans l'anticipation. Moi, je me levais à 6h du matin. Je mettais 1h30 à faire fondre de la neige et de la glace pour obtenir de l'eau, à manger, à m'habiller, à démonter ma tente, remettre tout dans mon traîneau. Et là, le matin, je vais partir pour 6 sessions de 55 minutes de ski, espacées de 5 minutes de pause. 6 sessions de ski le matin, 6 sessions de ski l'après-midi. Je mangeais toutes les heures.
L'aventurier Mathieu Tordeur est l'invité cette semaine dans le podcast Impact Story. Il commence ses aventures en 2014 en faisant le tour du monde en 4L.
En 4L, je pense qu'on est un peu les premiers à avoir fait quand même cette grande boucle. C'est mon plus beau souvenir. On est parti avec Nicolas, on avait 21 ans, on est revenu, on avait 22 ans.
Mais l'aventurier ne va pas s'arrêter là et relever des défis hors du commun, comme le marathon de Pyongyang en Corée du Nord, ou encore une traversée du Sahara en vélo électrique. Mais ce qui va surtout le faire connaître du grand public, c'est son exploit d'avoir relié le pôle Sud à ski.
Il faut savoir monter une tente dans du vent fort avec des moufles, s'orienter dans un brouillard très épais. Il faut apprendre à s'alimenter, à s'habiller pour ne pas transpirer. Il y a tout un apprentissage. Je suis devenu le premier Français le plus jeune au monde.
Mais pendant son voyage, Mathieu a vécu les dégâts du réchauffement climatique.
Très rapidement, dans mon aventure, je me retrouve confronté à un phénomène climatique et environnemental totalement inédit pour le continent, qui est une canicule. J'ai des températures qui sont aux alentours de 0 degré. Ça entraîne des chutes de neige très importantes.
Alors pour agir, l'aventurier a décidé de faire connaître ses problèmes au plus grand nombre.
La mission que je me suis donnée, c'est de relier la communauté scientifique et le grand public par des films documentaires, par des expéditions. Et si on est chacun acteur, on fait tous partie de la solution.
Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Bonne écoute. Salut Mathieu.
Salut Maman.
C'est un plaisir de te recevoir dans ce podcast, dans Impact Story. Est-ce que, pour commencer, tu peux répondre à la question que je pose à tous les invités, qui n'est pas facile, mais qui permet de rentrer vraiment dans le dur, je trouve. Est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec ?
La fameuse question. Un des plus gros échecs que j'ai vécu, c'était un échec lié à mon... une activité, donc c'est-à-dire l'aventure, le sport, c'est une aventure que j'ai ratée. Une aventure que j'ai ratée parce que j'ai sous-estimé la préparation nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Et cet objectif, c'était de traverser toute l'Europe à vélo dans une course qui s'appelle la Transcontinental Race. Donc on part de Belgique et on va jusqu'à Istanbul en Turquie. Et moi, je suis arrivé à Istanbul, mais je suis pas passé par tous les checkpoints qui étaient nécessaires pour avoir une place officielle de finisher. Et je l'ai vécu comme un gros échec parce que j'avais vraiment sous-estimé la difficulté et donc la préparation. Et ça m'a posé pas mal de questions sur la manière dont j'envisageais mes aventures. Alors ça peut paraître comme ça être un petit échec aux yeux des auditeurs, mais pour moi c'était dans la construction d'aventures encore plus grandes, et c'était important d'avoir ces points de passage là. Et clairement, j'avais pas fait le job pour aller au bout de mon aventure et aller arriver dans les conditions que je m'étais fixé ou que j'avais espéré à Istanbul.
Et t'avais quel âge quand t'avais fait ça ?
Quand je suis parti, c'était la troisième édition de cette fameuse course. Donc c'était en 2015. Et donc je suis pas très bon en maths, mais si je fais la soustraction, je suis né en 1991, j'avais 24 ans.
Ok, d'accord. Donc t'as commencé ultra tôt, mine de rien, à faire des expéditions et avoir cet esprit d'aventurier.
Ouais, moi c'est quelque chose qui remonte il y a assez longtemps. Moi, ma première aventure, je l'ai vécue juste après mon bac. Moi, j'ai passé mon bac en Normandie et je suis parti l'été de mon bac traverser une partie de l'Europe aussi à vélo. Sauf que j'étais un peu plus jeune et beaucoup moins expérimenté. Et l'idée, c'était de relier Budapest en Hongrie jusqu'à Istanbul en Turquie. Et c'était la première véritable aventure que je vivais parce que je connaissais pas du tout le vélo sur une longue distance. Je connaissais pas le voyage itinérant. Mais c'est vrai que ça a commencé assez jeune. Et si je me retourne encore plus sur mon parcours et que je fais un pas en arrière, moi j'ai vraiment été biberonné aux aventures de Tintin et Milou. C'est un truc que je raconte assez régulièrement, mais c'est la vérité. Mes parents me racontaient que j'étais pas même en CP, que je dévorais les BD de Tintin, et je suis sûr que t'as lu Tintin comme moi. C'est un petit personnage qui part aux quatre coins du monde, quoi, qui va en Inde, qui va en Égypte, qui va même sur la Lune. Et je crois que la lecture un peu précoce de Tintin, moi c'est ce qui a été un petit peu ma fenêtre ouverte sur le monde et ce qui m'a donné envie en grandissant, de partir voyager, de partir découvrir, de partir à l'aventure.
Donc depuis que t'es tout petit, tu souhaites être aventurier et partir un peu aux quatre coins du monde.
Ouais, moi je disais quand j'étais petit que je voulais être reporter, un peu comme, comme Tintin, quoi. Et finalement, je me suis un petit peu détourné de cette voie du journalisme, même si je l'ai considéré à un moment, pour vivre des aventures, les partager, les raconter. On va en parler, mais c'est vrai que ça date d'il y a longtemps. Moi j'ai commencé à l'âge de 18 ans et ça s'est jamais vraiment arrêté. Aujourd'hui j'ai 32 ans.
Mais c'est marrant parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs types d'aventures, tu vois. T'as l'aventure où tu pars vraiment dans un pays, tu t'installes de manière locale, tu fais un itinéraire. Et après t'as aussi l'aventure extrême, comme ce que t'as pu faire. Toi, c'est dans quel type d'aventure t'as voulu te lancer en premier et pourquoi après t'es parti sur un côté extrême comme tu l'as fait?
Au début, c'était des aventures qui étaient très amateurs. Tu vois, quand je te raconte la première aventure à vélo à l'âge de 18 ans, moi j'ai fait un nombre de conneries incalculables dans cette aventure-là, et tant mieux, c'est comme ça que j'ai appris. Mais il n'y avait rien d'extrême, il n'y avait rien de difficile. Moi, le vélo, je l'avais emprunté à un ami qui était plus âgé que moi, j'avais acheté sur le bon coin des sacoches que j'avais fixées sur un porte-bagages. Enfin, c'était vraiment fait avec trois bouts de ficelle, c'était autofinancé parce que j'avais travaillé en tant que serveur dans un restaurant, donc il n'y avait rien d'extrême, il n'y avait rien de très difficile. La plus grande difficulté, c'était de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire, bah voilà, je pars à l'aventure, je vais vivre ce rêve-là, ce voyage-là, et je vais vraiment prendre ça en main plutôt que de le rêver pendant des mois et des années. Et donc ça, c'était peut-être le côté le plus difficile, mais en soi, l'aventure, elle était accessible, j'ai envie de dire. Après, au fur et à mesure des années, ça s'est un peu professionnalisé, ça s'est mieux construit, et il y a notamment eu une expédition, une aventure qui a été déterminante dans mon parcours. Ça a été un tour du monde que j'ai fait en 4L, donc cette fameuse vieille voiture française produite par Renault. Ce tour du monde, on l'a fait à deux avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas, et on est parti pendant un an avec cette 4L pour promouvoir le concept du microcrédit ou de la microfinance. Et donc en quelques mots, cette aventure-là, elle consistait en fait à aller rendre visite à des micro-entrepreneurs. On avait, nous, récolté 25 000 euros avant notre départ avec des partenaires, avec des sponsors privés. Ces 25 000 euros-là, ils avaient été distribués. Alors, c'est une façon de parler. On n'avait pas des mallettes de cash dans la 4L qu'on distribuait par les fenêtres, mais cet argent avait été réparti à 150 micro-entreprises sur notre itinéraire. Et nous, comme des petits enquêteurs de la microfinance, eh bien, on allait rendre visite à ces gens-là, regarder comment l'argent avait été utilisé. Parce que le microcrédit, c'est pas utilisé pour acheter des télévisions et des téléphones portables. Le microcrédit, c'est utilisé pour démarrer une activité qui soit génératrice de revenus. Et donc, il y a tout un tas de d'hommes et de femmes qui ont recours au microcrédit dans les pays en voie de développement pour démarrer un petit business, une petite activité, et comme ça, voilà, être plus autonome financièrement. Et donc ce voyage-là, nous, il a duré un an avec Nicolas. On a fait 50 000 kilomètres à travers 40 pays. Donc on a roulé à travers une bonne partie de l'Asie. Quand on est arrivé au bout de l'Asie, on a mis la voiture dans un container. On a traversé l'océan Pacifique. On a continué notre route sur le continent américain. Donc d'abord la Californie avec San Francisco. Et on est descendu le long d'une route qu'on connaît surtout de nom, qui s'appelle la route panaméricaine ou la route panaméricana, jusqu'à Rio de Janeiro au Brésil. Et à Rio, on a trouvé un bateau sur lequel on a pu monter. On a débarqué à Dakar, au Sénégal. Et du Sénégal, on est remonté vers le nord, vers l'Europe, vers la maison. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu des aventures amateurs. Il y a eu des aventures un peu plus construites, comme ce tour du monde en 4L. Et puis après, il y a eu des aventures un peu extrêmes, comme cette expédition que j'ai vécue en Antarctique en solitaire. Mais tout s'est construit. En fait, moi, je ne suis pas parti la fleur au fusil. Et je ne suis pas parti tout de suite dans des aventures plus ambitieuses, plus difficiles, potentiellement plus dangereuses. Ça a été comme ça, vraiment une construction année après année.
Et comment, pour le Tour du Monde, comment on se prépare à un Tour du Monde comme ça en 4L? Et c'était quoi le plus dur?
Comment on se prépare? C'est vrai que moi, j'avais eu des expériences à droite à gauche, à vélo, en stop. Mais la 4L, c'était quelque chose de nouveau, quoi. L'idée de la 4L, c'était malin parce que c'est une voiture où il n'y a rien d'électronique. Tout est mécanique et donc la voiture, elle est facilement réparable par quasiment n'importe qui, n'importe où. Moi, je suis pas mécanicien, mais quand tu montres le moteur d'une 4L à n'importe quelle personne qui connaît un peu la mécanique, c'est assez facile à comprendre. Et donc, déceler une panne, c'était assez... c'était pas trop difficile. Et nous, on a pu entretenir la voiture par nous-mêmes sans être des pros de la mécanique. Donc la préparation, elle consiste surtout en fait à essayer d'éviter en fait les problèmes potentiels. Et donc là, c'est identifier le bon modèle de voiture. Après, c'est bien travailler l'itinéraire parce que sur notre itinéraire, à travers ces 40 pays-là, bah, il y a des frontières qui sont plus ou moins difficiles à passer. Il y a des pays qui sont plus ou moins dangereux. Donc il faut passer pas mal de temps en fait à regarder sur internet, à contacter des gens, regarder aussi les itinéraires d'autres voyageurs parce qu'on n'était pas les premiers hein, à faire des voyages comme ça de longue distance. En 4L, je pense qu'on est un peu les premiers à avoir fait quand même cette grande boucle, mais la préparation c'est vraiment ça quoi, c'est de se renseigner, essayer de s'entourer de personnes qui connaissent mieux que vous les itinéraires, le microcrédit et de rassembler voilà tout un tas de gens autour de soi. C'est vraiment ça a vraiment été ça la préparation, mais après on y est allé en suivant un peu notre bonne étoile quoi, parce qu'on n'a pas réservé tous nos hôtels, même si on dormait beaucoup sous la tente, on faisait vraiment pays après pays, et la préparation elle était aussi en cours de route pendant notre aventure.
Et du coup, donc t'as fait un tour du monde, ouais. Vous avez pris le temps de vous poser dans certains pays, ouais. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses qui t'ont particulièrement marqué pendant ce tour du monde ?
Bah, moi, ce qu'on me demande un peu, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de faire pas mal de différentes aventures avec différents moyens de transport, ce tour du monde en 4L, moi, c'est mon plus beau souvenir. Enfin, on est parti avec Nicolas, on avait à peine 21 ans, on avait 21 ans, on est revenu, on avait 22 ans. C'était une aventure extraordinaire, quoi, parce que tu pars un an avec une petite voiture rouge à la découverte un peu du monde et avec ce projet de mettre en lumière la microfinance. Nous, on a vécu des moments fabuleux tout le temps parce qu'on dit que c'est un tour du monde, mais en fait, quand tu arrives avec une voiture comme une 4L au fin fond de l'Inde ou au fin fond du Pérou et que t'as pas la climatisation et que tu dis aux gens que tu croises que tu viens de France, bah, les gens ils te regardent avec des gros yeux et donc ils t'accueillent assez facilement, la rencontre se provoque assez facilement. En plus, la voiture, la 4L, c'est une voiture qui a un look un peu sympathique, donc on n'est pas dans un gros 4x4 avec des vitres teintées, tu vois, c'est une voiture qui facilite les rencontres. Et donc nous, c'était des moments qui étaient vraiment mémorables tout le temps, quoi. Moi, c'est vraiment l'aventure qui m'a le plus marqué. Ça c'est sûr.
Il y a des moments où t'as eu peur, vous avez eu peur, il s'est passé des choses dangereuses ou autres?
Ouais, il y a des moments sur la route où tu serres vraiment les fesses, quoi. Parce que conduire en Inde, outre le fait que c'est une conduite à gauche, parce que c'est les résultats des anciennes colonies britanniques, outre ce fait-là, en fait, le code de la route n'est absolument pas respecté. Y en a un, mais c'est vraiment la loi du plus fort, quoi. C'est des gros camions qui viennent en sens inverse sur ta file en te faisant des appels de phare, et toi, avec ta petite bagnole, bah, t'as pas d'autre choix que de te mettre sur le côté, mais sur le bas-côté, t'as parfois une vache ou des gens. Et nous, on s'est vraiment fait peur. Avec Nicolas, on partait exprès très très tôt le matin des grandes villes, parce que si tu pars à 8 ou 9 heures du matin, il y a tellement tellement de monde dans les villes et sur les routes que, en fait, t'as rapidement des situations qui peuvent dégénérer, quoi. Donc la conduite en Inde, c'était vraiment très très sportif, et j'en ai pas un bon souvenir, et on s'est vraiment fait très très peur plus d'une fois.
Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le voyage, finalement?
En fait, ce que j'ai préféré le plus...
Dans l'aventure.
Ouais. Dans ce voyage particulièrement, c'est difficile de hiérarchiser. Ouais. Tel pays, c'était mieux que l'autre. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'itinérance. C'était le fait vraiment d'avoir cet objectif, en fait, de revenir à la maison, en fait, parce qu'on est parti de France et on est revenu en France par la terre. Et donc, on avait ce fil rouge du microcrédit qui nous... voilà, qui ponctuait aussi l'aventure. Donc il y avait des moments où on devait rouler, où on devait aller un peu plus vite, d'autres où vraiment on faisait des immersions les pays dans lesquels on pratiquait du microcrédit, et vraiment on se posait et on prenait le temps de comprendre un petit peu tout ce qui était lié, ouais, à la microfinance, rencontrer les micro-entrepreneurs, travailler avec les gestionnaires de crédit, parce qu'en fonction d'un pays ou d'un autre, c'est pas la même façon de le pratiquer. Donc moi, ce qui m'a bien plu, c'était cette itinérance, et puis le le fait d'avoir ce fil rouge qui nous donnait en fait une raison aussi à notre aventure. C'était pas juste on voyageait pour voyager, on avait cette envie aussi de se rendre un peu utile à notre manière, à notre façon, à notre échelle. On n'a évidemment pas changé la face du monde avec notre voyage et on n'a pas réinventé le microcrédit qui existait déjà, mais on a participé à un fonctionnement du microcrédit qui a besoin peut-être d'être un peu mieux connu du grand public, et c'est vraiment un levier de développement qui peut être extrêmement puissant s'il est bien pratiqué. Donc ce qui m'a plu, c'était vraiment ça. Et puis après, on dit tour du monde, mais moi jamais j'aurais la prétention de dire que on a bien connu ces 40 pays. Enfin, quand tu voyages un an avec une voiture, que tu fais 50 000 km, y a des pays que tu traverses trop rapidement, et il y en a d'autres où tu restes un peu plus longtemps. Mais en tout cas, ce voyage, ça a été l'occasion d'avoir un très très bel aperçu de notre belle planète, et ça donne envie justement de retourner dans des régions ou des pays de manière peut-être plus plus posée et plus longue, parce que mine de rien, faire un voyage d'un an en 4L, faut faire des choix, et donc il y a des endroits que tu traverses bien trop rapidement.
Et est-ce que Orelsan, il a raison quand il dit après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison?
Avec Nicolas, on est revenu par l'Espagne, parce qu'on arrivait de Dakar, et donc on a traversé les pays comme la Mauritanie, le Sahara occidental, qui est un pays mais pas reconnu par tous, le Maroc, et puis après Portugal, Espagne. On est arrivé donc par le sud de la France en France après un an sur les routes, et c'est vrai qu'on est arrivé en France avec Nicolas, on s'est regardé, on s'est dit la France, c'est quand même un sacré beau pays, quoi. On a vraiment beaucoup beaucoup de chance, et on l'oublie trop souvent, la chance qu'on a déjà d'avoir la nationalité française, de pouvoir voyager et puis de vivre dans un pays comme la France, quoi, qui a une diversité de paysages qui incroyable, et puis tout ce qui est lié à l'accès à la santé, à l'éducation, enfin c'est quand même quelque chose de fou. Et c'est vrai qu'on s'est vu avec Nicolas, on s'est regardé, on s'est dit mais on a quand même beaucoup beaucoup de chance.
Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment quand on part à l'étranger qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de chance, ouais. sur tout ce que tu as dit, quoi. Ça c'est fou. Et du coup, après ça, donc c'est quoi les autres voyages clés que tu as fait
Après ça, ce tour du monde en 4L, ça a été un vrai accélérateur, parce que nous, on est retourné avec Nicolas dans nos études supérieures. En fait, on avait mis entre parenthèses nos études pendant un an pour vivre ce projet personnel. Donc on est retourné à nos études et on a fait un film documentaire en revenant, et un livre, alors que c'était pas des projets qui étaient initialement prévus au départ, mais moi je me suis pris au goût de faire des images, de filmer, d'écrire, et on a fait ce documentaire qui a gagné un prix dans un festival, qui a été ensuite acheté par la chaîne de télévision de voyage de TF1 qui s'appelle Ushuaïa TV. Et quand on a vu ça avec Nicolas, moi je me suis dit mais en fait c'est colossal, quoi, c'est exceptionnel, d'un projet un peu étudiant, un rêve de gosse. En fait, il y a tout un tas de gens qui s'agrègent autour de ce tour du monde-là et qui veulent le valoriser. Et donc, moi, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. En fait, c'est des reportages, c'est filmer, c'est raconter des histoires. Et donc, j'ai poursuivi mes études supérieures qui étaient en sciences politiques, mais avec la petite idée de me dire, voilà, je vais au bout de ça parce que ces études m'intéressent et parce que j'ai la chance de pouvoir en faire et que je suis dans les bonnes conditions pour les faire. Mais à la fin de ces études-là, eh bien, je vais essayer de poursuivre dans cette voie de l'aventure. Et donc, il y a eu d'autres aventures entre le tour du monde en 4L et ce que je fais aujourd'hui, mais c'était plutôt des aventures liées à des challenges sportifs, des dépassements physiques. Et donc, c'est là que j'ai découvert un peu le monde de l'ultra-endurance. Donc, les courses de longue distance, le vélo sur des longues distances. D'ailleurs, l'échec par lequel on a commencé la transcontinentale, c'était un an après ce tour du monde en 4L. Et c'est là que j'ai découvert, moi, les mondes polaires. Donc, d'abord, en Norvège, après au Groenland, et les mondes polaires, là, moi ça m'a subjugué, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment des milieux absolument fabuleux, et j'ai vraiment eu envie de mieux les connaître et donc d'y passer plus de temps. Et c'est vraiment ces expériences en Norvège, au Groenland, au Svalbard, qui ont été le début de l'envie de vivre une aventure, une expédition en solitaire en Antarctique.
Ok, d'accord. Et du coup, là, est-ce que tu veux nous parler de cette expédition en Antarctique où justement, C'est un record que tu as battu qui est, ouais. C'est quoi exactement
Écoute,
le terme
moi, je ne suis pas parti pour battre un record. Moi, okay. Je suis parti pour vivre une parenthèse de solitude dans un milieu qui me fascinait. Et donc, le projet, il a consisté à partir de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle sud, donc l'axe de rotation de la Terre. L'Antarctique, c'est bien ce continent qui est le plus au sud de la planète. C'est un continent qui est recouvert de glace et de neige. C'est un continent qui est immense, qui fait 28 fois la taille de la France. Et on le connaît pas si bien que ça. On a découvert l'Antarctique, en tout cas les côtes de l'Antarctique, il y a 200 ans. On a atteint le pôle sud pour la première fois en 1911. Donc finalement, dans l'histoire de la connaissance de notre planète, c'est assez récent. Et moi, j'ai été biberonné aussi, alors d'abord à Tintin, je le disais, mais après au récit des grands explorateurs polaires. Alors peut-être que les noms de Shackleton, Amundsen, Paul-Émile Victor, Jean-Baptiste Charcot évoquent un souvenir plus ou moins lointain à ceux qui nous écoutent, mais c'est des gens qui ont découvert ce continent-là, et c'est des récits d'aventures et d'expéditions absolument épiques. Et moi, j'ai voulu sortir de ça pour vivre ma propre aventure. Alors évidemment, à la sauce 21e siècle, mais j'ai voulu vraiment essayer de... Enfin, c'était un peu plus fort que moi, quoi. J'avais envie de vivre une aventure un peu à la manière de ces héros-là, ces explorateurs. Et donc, mon projet a consisté à partir de la côte du continent, dans des conditions particulières, puisque j'ai fait le choix de partir en solitaire et sans ravitaillement. Donc, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui aurait été prédisposée tout le long de mon itinéraire, qui faisait au total 1130 km de long.
C'est quelque chose qui se fait d'habitude ?
Bah, il n'y a pas grand monde, hein, qui fait ce genre d'expédition. Il y a quand même eu des expéditions avant moi. On était une petite vingtaine à avoir parcouru cet itinéraire-là dans ces conditions-là, c'est-à-dire en solitaire et sans ravitaillement. Et donc moi, j'avais envie, comme je le disais, de voir ce continent et de vivre ce continent dans ma chair, quoi, vraiment d'y être et de tirer mon traîneau et d'atteindre ce pôle sud. Et la deuxième motivation, c'est que bah, j'avais envie de vivre, comme je le disais, une parenthèse de solitude. En fait, j'avais fini mes études supérieures à ce moment-là et je me disais qu'avoir 2 mois pour soi et rien que pour soi, en fait, c'était aujourd'hui devenu presque un luxe, quoi, parce que on vit quand même dans un monde où on est ultra connecté tout le temps et pour le meilleur, hein, souvent, hein, mais je me disais que avoir 2 mois pour soi et rien que pour soi, c'était quelque chose d'assez unique dans une vie, et donc j'avais envie de vivre ça seul. Je suis pas parti seul parce que j'ai pas trouvé de copain ou de copine pour m'accompagner, hein. Je suis parti seul parce que j'avais vraiment envie de moi, Mathieu, me confronter à cette solitude et voir un petit peu bah, comment j'allais m'adapter de cette solitude et comment j'allais vivre cette solitude. Et c'était une expérience incroyable. Donc effectivement, il y a eu des records, mais c'était pas du tout l'objet. C'était vraiment la cerise sur le gâteau, parce qu'en arrivant au pôle sud, en réussissant l'expédition, je suis devenu le premier Français et j'étais devenu le plus jeune au monde. Le record a été battu cette année.
Mais non.
Ouais, ouais.
Quelqu'un qui a quel âge du coup ?
Bah, qui a un peu moins d'un an que moi et tant mieux. Enfin, je veux dire, un record c'est fait pour être battu, tu vois. Donc moi j'en suis très heureux et il sera certainement rebattu. Mais c'est vrai que en 2019, quand j'étais arrivé, j'étais le plus jeune du peu de personnes qui se lancent dans ce genre d'aventure un peu folle.
Et du coup, comment on se prépare à cette aventure ? Parce que de ce que j'ai vu, t'étais tout seul pendant 51 jours.
Ouais.
Tu marchais avec ta propre nourriture.
Ouais, dans un traîneau.
Dans un traîneau. Mmh. Enfin, comment on se prépare à faire tout ça ?
Ben, on se prépare tout simplement en fait en imitant ce à quoi on va se retrouver confronté. Donc pour ça, en fait, on s'entraîne dans un milieu similaire à l'Antarctique. Ça veut dire un milieu donc polaire. Donc on peut d'abord aller dans les Alpes ou dans le Vercors l'hiver en France. Le mieux, c'est quand même d'aller peut-être en Norvège où on peut avoir des conditions polaires assez rudes et on va se retrouver confronté un petit peu aux mêmes conditions que l'Antarctique, c'est-à-dire avec beaucoup de vent, avec du froid. Et donc pour moi, en fait, j'ai multiplié les immersions dans ces milieux-là de nombreuses années avant le départ en Antarctique. Donc c'était des immersions qui duraient plusieurs semaines, Alors, peut-être maximum 3 semaines, et que je vivais pas seul. Moi, je partais avec un guide polaire professionnel qui m'enseignait les bonnes pratiques, les bonnes techniques, les bons réflexes à adopter dans ces milieux contraints et contraignants. C'est-à-dire qu'il faut savoir monter, par exemple, une tente dans du vent fort avec des moufles. Il faut apprendre à s'orienter dans le whiteout. Le whiteout, c'est un brouillard très épais. Il faut apprendre à s'alimenter. Il faut apprendre à s'habiller pour ne pas transpirer, parce que dès que vous transpirez, tu mouilles tes vêtements, et tes vêtements, quand ils sont mouillés et qu'il fait moins de 0 degré, ils vont geler, et donc l'hypothermie peut être assez proche. Donc il y a tout un apprentissage.
Et là-dessus, tu fais comment pour ne pas transpirer?
Alors, pour pas transpirer, il faut apprendre à s'habiller. En fait, tu contrôles pas ton corps pour pas qu'il transpire, mais tu apprends à t'habiller pour éviter d'arriver à un seuil où toi, tu vas commencer à avoir trop chaud et transpirer. Et pour ça, en fait, il faut avoir des vêtements sur lesquels tu peux ventiler, donc que tu peux ouvrir sous les bras, que tu peux ouvrir sur les côtés. Et il faut surtout apprendre à bien se connaître. C'est-à-dire que quand tu tires un traîneau, qui pesait donc 115 kilos en Antarctique avec toute ma nourriture et tout mon équipement, en fait, même s'il fait moins 20 degrés, c'est tellement lourd que tu dépenses beaucoup d'énergie, et donc t'as pas forcément froid. Tu vas avoir froid dès que tu vas t'arrêter. Et donc, il faut apprendre en fait à anticiper le fait que tu vas avoir chaud avec ce traîneau, et donc il faut un peu savoir si c'est 2 épaisseurs, 3 épaisseurs ou 1 épaisseur et 1 doudoune qu'il va te falloir sur le dos pour pas transpirer. Mais tout ça s'apprend à force de faire, et notamment ce guide polaire, lui, il a pu m'orienter sur les choix d'équipement, sur les choix de vêtements. Mais tout ça s'apprend pas en 5 secondes, quoi. Ça demande de multiplier les expériences dans le froid, et c'est comme ça vraiment que je me suis préparé, que je me suis entraîné. Et puis après, il y a eu l'ultra endurance. Parce qu'une aventure comme celle que j'ai vécue au pôle sud, c'est très répétitif. Tu dois parcourir 1130 km en 50 jours, parce que moi, c'était 50 jours de nourriture que j'avais choisi d'emporter avec moi dans mon traîneau. Mais tous les jours, ça veut dire qu'il faut parcourir une 20aine de kilomètres dans un univers qui est très hostile, très stérile aussi, parce que il fait moins de 0 degré, donc il n'y a pas d'odeur, il y a très peu de couleurs. C'est un univers qui est très monochrome, parce que l'Antarctique, c'est un grand désert où il n'y a que de la glace et de la neige, et parfois il y a même beaucoup de nuages. Donc tu évolues dans un univers qui est très blanc ou gris, et tu pratiques, tu effectues le même effort tous les jours. Donc pour ça, moi, je me suis entraîné à courir sur des longues distances, à faire du vélo sur des longues distances, et à fournir un effort soutenu, répété, parce que c'est exactement ça, ce à quoi j'allais me retrouver confronté en Antarctique.
Et ta journée type a ressemblé à quoi?
Journée type, c'est long, hein, on va en parler, mais moi, j'ai été énormément ralenti par un phénomène climatique que je vais expliquer. Mais les journées sont longues parce que tu dois skier le plus possible. Et donc moi, je me levais à 7h du matin. Non, je me levais à 6h du matin. Le réveil sonnait à 6h, enfin à 5h55, et je me réveillais à 6h. Je mettais 1h30 à faire fondre de la neige et de la glace pour obtenir de l'eau, à manger, à m'habiller, à démonter ma tente et à remettre tout dans mon traîneau pour repartir pour ma journée. Donc à 6h, le réveil sonne. À 7h30, je commence ma journée de ski. Et là, le matin, je vais partir pour 6 sessions de 55 minutes de ski espacées de 5 minutes de pause. Donc en fait, j'ai 6 sessions de ski le matin, 6 sessions de ski l'après-midi, pour un total environ de 10h30 de ski ou un peu plus. Et donc, la manière de procéder, c'est vraiment la suivante, c'est de décomposer ta journée en plein de petites sessions. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Antarctique, dans le cœur de l'Antarctique, il n'y a pas tellement de repères visuels, il fait jour en permanence. Donc tu as besoin comme ça d'avoir des repères que tu te fixes toi-même. Et donc pour ça, moi, j'avais ces sessions de ski qui me permettaient en fait de skier du mieux que je peux pendant cette session. Après, au bout de 55 minutes, je m'asseyais sur mon traîneau, je buvais un coup, je mangeais un peu et je repartais comme ça pour une nouvelle session. Mais c'était vraiment comme ça, cadencé, rythmé avec ces sessions-là, parce que si je skiais un petit peu n'importe comment, en fait, j'étais pas efficace. Et surtout, psychologiquement, c'était hyper difficile, parce que partir pour une journée de 12 heures de ski, c'est long, et donc tu as besoin de dire à ton cerveau, T'as une heure pour skier du mieux que tu peux, t'écoutes un podcast si tu le souhaites, ou un morceau ou un album de musique, et ça permet d'avancer de manière beaucoup plus sereine parce que c'est un petit pas, c'est quelque chose de facilement atteignable, plutôt que de te dire voilà, t'as 12 heures, tu skis comme tu veux et puis t'arrêteras à 20 heures le soir. C'était ma manière de faire. Et donc tout ça pour dire que 6 sessions le matin, je déjeunais vers 14h, 14h30, et puis je reprenais comme ça pour 6 sessions l'après-midi. Je plantais ma tente aux alentours de 20h. Donc ça, c'était plus rapide de monter la tente et de m'installer. Ensuite, eh bien, je faisais fondre à nouveau de la glace et de la neige. Je mangeais et puis après, je communiquais. Alors moi, j'avais mon équipe en France à qui j'envoyais une petite photo et un texte, enfin un petit rapport de ce que j'avais vécu pendant ma journée. Eux le partageaient après sur mes réseaux sociaux et ça permettait aux partenaires, aux sponsors et aux gens qui me suivaient de voilà, suivre un petit peu mon aventure. Parce qu'il faut savoir qu'en Antarctique, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi. Ouais. Donc il y a aujourd'hui un réseau satellite qui me permet d'avoir comme ça une connexion avec le monde extérieur. Mais c'est pas la 4G qu'on connaît. Hein. C'est un réseau qui est très lent et donc c'était une communication un petit peu à sens unique. C'est moi qui envoyais du contenu et puis je pouvais recevoir quelques emails, mais l'idée c'était vraiment d'être dans ma bulle et de pas voilà être j'avais pas accès au réseau plus
et
que ça.
Ton téléphone il fonctionnait, enfin c'était quoi comme téléphone du coup?
Non, c'est ce qu'on appelle des appareils satellites avec le satellite Iridium. Donc moi j'avais un téléphone satellite avec lequel je pouvais appeler mais des éventuels secours d'ailleurs si j'en avais besoin. Et puis après j'avais un petit boîtier qui est comme une espèce de mini box 4G mais qui elle est connectée au réseau satellite, mais encore une fois c'est un réseau qui est tellement lent que pour envoyer une petite photo, moi ça me prenait peut-être 40 minutes ou 45 minutes et un mail ça me prend plusieurs minutes, donc t'as pas Instagram quoi.
Et je trouve que c'est super intéressant ce que t'as dit sur le fait de découper sa journée en petits slots pour que ça paraisse plus atteignable. Et j'ai l'impression que tu peux aussi transposer ça dans la vie, dans plein de domaines. Si par exemple demain tu veux commencer à faire un marathon, ça sert à rien de commencer direct, mais tu fais vraiment étape par étape. Et est-ce que cette mentalité, du coup, toi t'arrives à la transposer dans ta vie de tous les jours ou dans d'autres défis que tu t'es lancé?
Moi en fait sur le moment en Antarctique, c'est quelque chose que j'ai appliqué parce que j'ai remarqué que si je le faisais pas, en fait, comme je te le disais, j'étais moins efficace. Psychologiquement, j'arrivais pas du tout à décomposer mon expédition et mon effort. Donc, j'avais besoin comme ça, comme une petite carotte, quoi, de me dire, voilà, t'as une heure, dans une heure, je mange la barre de chocolat que j'aime bien. Et c'est une manière d'avancer qui est beaucoup plus sereine parce que je me souviens très bien que moi, si le matin, dans mon sac de couchage, quand mon réveil sonnait à 6 heures, si je pensais à la fin de ma journée ou si je pensais à la fin de mon expédition, si je pensais au pôle sud, je perdais un peu toutes mes forces quoi, parce que ça paraissait tellement loin, tellement difficile d'accès, tellement complexe, tellement de souffrance aussi, il faut le dire, que en fait je me démotivais complètement. Alors que me dire voilà, en fait non, là je pars juste pour une heure de ski, ça je l'ai fait plein de fois et je peux le faire. Et donc ça c'est une stratégie qui se révèle être payante pour plein d'autres domaines. T'as évoqué effectivement le marathon, mais c'est aussi le cas par exemple quand tu te lances dans l'écriture d'un livre. Moi ça a été mon cas après mon expédition en Antarctique. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Continent Blanc, et quand j'ai signé mon contrat d'édition, c'est pareil quoi. Quand tu penses à la tâche qui est devant toi, et si tu penses au point final de ton bouquin, en fait tu le fais jamais quoi, parce que c'est trop difficile quoi, surtout quand c'est pas ton métier d'écrire quoi. Donc il faut vraiment essayer de décomposer l'écriture d'abord en se disant voilà, aujourd'hui je prends une matinée pour écrire tel souvenir, ou alors demain voilà je terminerai ce chapitre, et on fait paragraphe par paragraphe, et puis après ça s'additionne et puis on se relit, et puis comme ça fait vraiment une première partie et on avance comme ça. Et je crois que c'est une stratégie qui fonctionne pour dans plein de domaines. Je veux dire, elle marche pour aller au pôle sud, elle marche dans plein d'autres domaines d'activité. Donc moi c'est quelque chose que je réemploie régulièrement dans ma vie de tous les jours.
Non mais super intéressant, parce que du coup je trouve que l'exemple de l'expédition c'est beaucoup plus parlant, et en fait si tu le retransposes à d'autres domaines, tu te rends compte que dans la vie de tous les jours, sur d'autres défis, ça fonctionne aussi. Et aussi du coup, donc tu pars avec 115 kilos, tu manges quoi? Enfin vraiment d'un point de vue très concret, parce que du coup tu sais, pour qu'on puisse vraiment se projeter.
La majorité du poids du traîneau c'est de la nourriture. Le reste, c'est de l'équipement, donc une tente, un sac de couchage, un tapis de sol, des vêtements polaires, du matériel de réparation. Il va y avoir aussi tout ce qui est lié à la cuisine, donc les réchauds, le matériel aussi pour enfin la casserole, des couverts, etc. Le réchaud, il est hyper important parce que c'est le seul outil qui me permet d'avoir de l'eau. En fait, en Antarctique, il n'y a pas d'eau. Enfin, elle n'existe que sous son état solide, donc de la glace et de la neige. Elle est sous mes pieds. Donc, pour la fabriquer, je dois, avec une pelle à neige, découper des petits morceaux de glace, les mettre dans mon réchaud. Ce réchaud, il fonctionne au fioul, à l'essence. Et une fois que j'obtiens de l'eau, il faut que je la mette dans des thermos. Autrement, elle gèle très rapidement. Donc, tout ça, ça constitue un petit peu du poids. Le fioul, j'en ai pris 11 litres. Donc, j'ai aussi 11 litres de fioul que je tire. Et le reste, c'est de la nourriture. Et tous les jours, j'ai environ 1,3 kg, 1,4 kg de nourriture. Ça représente 6500 kilocalories par jour. Donc, c'est trois fois. Ouais, c'est assez énorme, mais c'est trois fois ce qu'un adulte mange habituellement en temps normal. Cette nourriture, elle est la plus calorique possible. Et elle contient le moins d'eau possible. Pourquoi ? Parce que si elle contient de l'eau, l'eau elle va geler, ça va être du poids mort, enfin du poids en trop à tirer. Et puis surtout, si elle contient de l'eau, comme ça va être gelé, moi je vais risquer de me casser les dents si je veux manger une barre de chocolat par exemple. Donc j'avais de la nourriture déshydratée, qu'on appelle aussi de la nourriture lyophilisée. C'est de la nourriture dont on a extrait toute l'eau et qu'on réhydrate avec de l'eau bouillante. Donc en fait, t'as une espèce de poudre avec des aliments déshydratés et tu viens mettre de l'eau bouillante dedans et tu tournes un petit peu, t'attends 10 minutes et ça recompose un plat. Ça, c'est ce que je mangeais le soir. Et puis après, toute la journée, en fait, je mangeais toutes les heures. Je mangeais des fruits à coque, donc des noisettes, des cacahuètes, des noix. Je mangeais des fruits secs aussi. Je mangeais beaucoup de chocolat. J'avais 200 grammes de chocolat par jour.
Donc ça, c'était vraiment... C'était parce que t'étais fan de chocolat ou c'était...
C'est parce que j'aime bien le chocolat et parce qu'en fait, c'est un rapport poids calorique qui est intéressant. Donc comme on fournit un effort physique dingue, en fait, on peut manger un peu ce qu'on veut. Donc 200 grammes de chocolat, c'était bien. J'avais pas mal de chips Pringles aussi, parce que pareil, c'est un rapport poids-calorie quasiment imbattable. Et puis en plus, ça vient dans des tubes, donc ça prend assez peu de place. Et ces tubes, quand ils sont vides, eh bien ça fait des poubelles. Alors moi, j'avais le moins de déchets possible, mais on a quand même un tout petit peu de déchets avec soi. Et donc ça, c'était pratique pour après mettre les déchets dedans. Ça permettait en fait de bien garder ça propre dans le traîneau. J'avais un fromage à pâte dure que je réhydratais dans une soupe. Donc je mangeais pas mal de fromage aussi et puis j'avais trouvé un salami danois qui était si gras qu'il gelait jamais. Ça, je l'avais trouvé au Chili avant mon départ et donc ça, c'était aussi pas mal de calories. J'avais des nouilles chinoises, des soupes déshydratées et puis je rajoutais aussi beaucoup de beurre. J'avais parfois 75 voire 100 grammes de beurre que je rajoutais dans mon dîner lyophilisé parce que on est vraiment à la chasse à la calorie quoi. Moi j'ai mangé 6500 kilocalories par jour pendant quasiment 2 mois. Et j'ai quand même perdu du poids. Alors pas énormément, mais j'ai quand même perdu 5 kilos.
Ah oui, quand même, waouh. C'est dingue parce que moi, du coup, je me serais dit que tu aurais une alimentation ultra saine, mais en fait, pas du tout.
En fait, non. En fait, tu skis 12 heures par jour dans un univers où il fait très froid. Donc, en fait, ton corps est mis à rude épreuve et t'as besoin de calories. Et puis, t'as besoin de nourriture qui soit la plus légère possible. Donc, en fait, t'emmènes pas des fruits et légumes. Ce serait trop lourd, quoi. Mais t'en rêves. Au bout de 2 mois, t'as qu'une envie, c'est de manger de la nourriture fraîche, quoi.
Et aussi, quand tu décides de... Enfin, donc, tu marches, donc, il se passe quoi quand t'es tout seul, au milieu de nulle part, ou t'es dans des conditions hostiles ? Il se passe quoi dans ta tête ? Enfin, comment tu fais pour vivre cette solitude ? Enfin, qu'est-ce que tu te dis ? Enfin, voilà.
C'est vrai que quand t'es au milieu de l'Antarctique, t'es dans un univers qui est dangereux. Pourquoi ? Parce que l'Antarctique, c'est un gigantesque désert. C'est un continent qui est recouvert de glace et de neige. Il y a tellement de glace et de neige que quand tu es au pôle sud, tu as sous tes pieds 3 km d'épaisseur de glace. En fait, l'Antarctique, c'est vraiment notre réserve d'eau douce sur la planète. On dit que c'est 70% des réserves d'eau douce. Et il y a vraiment une quantité phénoménale de glace et de neige là-bas. Et il y a tellement de glace et de neige que comme sur tous les glaciers, eh bien cette neige, elle n'est pas statique. Alors elle se déplace, elle bouge, pas rapidement, mais elle bouge. avec la gravité, en fait, sous son propre poids, elle bouge, elle coule un petit peu vers l'océan. Et ça, ces mouvements-là, ça ouvre des grandes brèches qu'on appelle des crevasses. Donc l'Antarctique, c'est dangereux parce qu'évidemment, il fait froid, mais il y a aussi la présence de crevasses sur l'itinéraire. Donc à quoi on pense quand on est au milieu de ce désert crevassé? D'abord, on est hyper vigilant. On essaye toujours un petit peu dans l'anticipation. On regarde le GPS, on regarde l'itinéraire, on regarde l'endroit où on met ses skis pour pas se retrouver dans un endroit potentiellement crevassé. On se sent tout petit, minuscule, parce que on fait un tour autour de soi, on voit du blanc à perte de vue et on est le seul être vivant à des kilomètres à la ronde, parce que les animaux en Antarctique, ils existent, mais ils vivent sur la côte du continent. Il y a des manchots, des phoques, des baleines, beaucoup d'oiseaux, mais au cœur du continent, il fait tellement froid l'hiver qu'il n'y a rien qui puisse vivre et survivre. Sur les hauts plateaux, en Antarctique, l'hiver, il fait moins 70 degrés en moyenne. Donc, c'est des températures qui sont inimaginables. Et donc, on est au milieu de ce grand désert. Et donc, on se sent tout petit, très privilégié d'être là aussi. Parce qu'il faut le dire, l'Antarctique, c'est un continent qui est difficile d'accès, qui est sauvage. Et donc, le fait d'être là-bas, moi, tous les jours, je me pinçais, quoi. Je me disais que j'avais une chance fabuleuse d'être là. Et en même temps, on se sent pas en danger, mais on sait qu'on évolue dans un univers dangereux et qu'il faut être vigilant. Et donc, on est toujours dans un état un peu d'alerte.
Et il n'y a pas... Enfin, forcément, du coup, tu sens cette solitude, mais qu'est-ce qu'on se dit quand on est tout seul pendant 2 mois? Enfin, à un moment, tu tournes en rond, tu penses à quoi? Enfin, tu vois, c'est...
Ouais, moi, cette solitude, tu la perçois peut-être comme quelque chose de très difficile, mais en fait, moi, c'était quelque chose que je suis allé chercher. Moi, je l'ai toujours accueilli, cette solitude, avec beaucoup d'enthousiasme, de curiosité, parce que c'était quelque chose que je voulais vivre. Et moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré le fait de vivre ça seul. Je suis pas quelqu'un de solitaire par nature, mais j'ai bien accueilli cette solitude parce que, déjà, j'étais curieux de la vivre. Et puis, par ailleurs, je savais qu'elle allait prendre fin. C'est-à-dire que moi, mon expérience, elle allait durer 50 jours parce que j'avais pris 50 jours de nourriture. Et donc, l'aventure, elle était encadrée dans le temps. On m'a pas dit, Mathieu, on va te déposer en Antarctique et on viendra te chercher quand on viendra te chercher. Ça aurait été difficile à vivre pour moi. Mais je savais que, j'avais 50 jours pour vivre cette expédition et il fallait que je la vive du mieux que je peux. Mais donc, moi, je l'ai pas vécu comme une contrainte. Je l'ai vécu comme quelque chose de nouveau parce que je connaissais pas la solitude sur une si longue durée. Et je l'ai vécu comme je le disais, un peu comme un cadeau, quoi, parce que on est seul face à soi-même, donc on se découvre dans des situations nouvelles, on va creuser aussi vraiment au fond de soi, quoi. Moi, c'est quand tu fais l'expérience du vide, parce que c'est vraiment l'expérience du vide, l'Antarctique, hein, il fait jour tout le temps, il n'y a pas d'odeur, les animaux, je l'ai dit, ils sont bien loin, tu te retrouves dans un univers où c'est le grand vide, et en fait, ce qui te reste, c'est ce que tu as à l'intérieur, quoi. Et l'intérieur, l'intériorité, elle est vraiment décuplée dans ce milieu-là, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se retrouver dans ce genre de situation, parce que moi, ça m'était jamais arrivé, et ça te permet, en fait, de mieux te connaître, tout simplement. Et je dis pas qu'on a besoin d'aller au pôle sud, hein, pour mieux se connaître, mais moi, en tout cas, parce que j'avais 26 ans à ce moment-là, ça a été d'une richesse incroyable, quoi.
Donc, t'as appris des choses sur toi? T'as appris quoi?
Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la question à laquelle j'ai vraiment eu du mal de répondre quand je suis revenu, parce que j'ai mis du temps, en fait, à atterrir, à assimiler, en fait, tout ce qui s'était passé. Et je peux te donner 2 réponses. La première, et on l'a bien évoqué, mais moi, je me suis découvert cette capacité à décomposer un objectif dingue en plein de petites parties et à transcender l'effort d'une certaine manière. Parce que sans appliquer cette stratégie-là, j'aurais pas réussi. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais imaginé, anticipé, préparé. C'est quelque chose qui est vraiment venu sur le moment, dans l'action. Et donc, cette manière de décomposer un objectif en plein de petites parties, c'est quelque chose que je me suis découvert. Et la deuxième chose que je me suis découvert, ça a été un peu plus intime, ça a été en fait que le fait d'être éloigné autant de mes proches, de mes amis, de ma famille, on se rend compte en fait que bah, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Enfin, en tout cas, pour moi, à mes yeux, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Et il y a des projets, il y a des rêves, mais en fait, c'est dingue, quoi, le fait d'être si loin d'eux aussi longtemps et le fait d'être seul avec moi-même aussi longtemps et d'être dans un univers où on laisse, voilà, tout ce qu'on connaît derrière soi, parce que l'Antarctique, c'est un territoire un peu extraterrestre, quoi. Et ben on vient plonger au fond de soi, comme je le disais, et on se rend compte en fait un peu de ce lien avec son entourage qui est finalement la chose la plus forte. Et moi, ça m'a rapproché d'eux, mine de rien, même si j'étais pas éloigné d'eux, à proprement parler avant de partir. J'ai jamais eu de difficultés avec mon entourage, loin de là. Mais on se rend compte un peu de cette chance et peut-être de ce lien absolument indispensable qu'on a avec notre entourage.
Et quand tu reviens sur Terre, entre guillemets, ouais, c'est pas bizarre quand tu reprends des interactions sociales avec les gens? Tu t'es pas dit que, je sais pas, le fait de partir aussi longtemps, tout seul, retrouver du monde, enfin revenir, je sais pas, à Paris ou dans une ville où il y a beaucoup de monde, ça crée pas un choc?
Il y a un choc qui dure pas longtemps. En fait, moi, quand je suis arrivé au pôle Sud, après 51 jours d'expédition, je suis arrivé sur une base scientifique américaine qui est donc au pôle Sud et qui est en place depuis 1956. Et donc ça a été un premier sas, un petit peu, entre passer d'une extrême solitude et puis après être entouré de scientifiques, de logisticiens qui travaillent là-bas.
Ils y sont à l'année, enfin,
au pôle Sud, il y a une base à l'année où tu as des scientifiques qui travaillent sur le climat, l'environnement, la glace. L'été, ils sont... une petite centaine, 120 il me semble, et l'hiver ils sont 50. Et ils vivent en autarcie totale, hein, parce que l'hiver il fait nuit, il fait trop froid, donc ils vivent vraiment en vase clos, quoi. Nous les Français, on a deux bases scientifiques, une qui s'appelle Dumont-Durville, qui est sur la côte du continent antarctique, en face de la Nouvelle-Zélande, si on doit schématiser la géographie, et puis il y en a une autre qui est un peu plus dans les terres, qui s'appelle Concordia, et qui est partagée avec les Italiens. Et donc, il y a plein de bases, hein, scientifiques, on pourra en parler en Antarctique, mais il y a une activité scientifique très importante. Et donc, moi, quand je suis arrivé au pôle Sud, il y avait cette base. Et donc, j'ai eu ce sas, un petit peu de décompression, si je peux dire, où pendant 7 jours, je suis resté là-bas. Et puis après, il y a eu le retour donc au Chili, parce que moi, mon point de départ, il était le plus proche de l'Amérique du Sud. Et puis après, en France. Et en fait, oui, ça fait un peu un choc. Moi, ce qui m'a le plus manqué dans cette expédition, et je m'en suis rendu compte en revenant au Chili, ça a été de voir la nuit, la présence de la nuit, et la présence d'odeur. En fait, il y a pas d'odeur en Antarctique. T'es dans un univers où t'as l'impression que tous tes sens sont mis en sommeil. Parce que, c'est un univers qui est très sec. Et moi, je me souviens, quand je suis revenu au Chili, dans la ville de Punta Arenas, qui est au bord de la mer, j'avais l'impression d'être arrivé dans un pays tropical, quoi, d'être dans une jungle, alors que voilà, tu sens un peu l'humidité parce que t'es proche de la mer, mais tu redécouvres un petit peu tout ça, quoi, la nuit, les odeurs de chlorophylle, les odeurs de la mer, les couleurs aussi, les arbres, et donc tout ce que on prend nous pour acquis dans nos vies un petit peu de terriens, tu les redécouvres, et c'est génial, quoi. Et donc ça, c'est un peu un choc. Mais bon, malheureusement, en fait, on se réhabitue assez vite. On se réhabitue assez vite à la vie réelle.
Et pendant ton expédition, tu as aussi constaté les conséquences du réchauffement climatique.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Bah bien sûr, moi, cette aventure au pôle Sud, c'était un rêve de gosse, c'était un challenge, c'était un défi que je m'étais fixé. Et j'ai voulu être très honnête avec cette ambition, cette envie, dans la manière de raconter mon expédition et de d'ailleurs trouver des partenaires aussi. Parce que je me suis évidemment posé la question de dire que je pourrais porter des messages sur l'environnement, mais en même temps, à ce moment-là, quand je suis parti en 2018, je trouvais que c'était un peu malhonnête de ma part, parce que le point de départ, c'est que c'était un rêve de gosse. Et donc, j'ai préféré assumer ça et trouver des gens pour m'aider qui se reconnaissent dans cette vision de dépassement de soi, de vivre ses rêves pour m'aider à financer ce projet. Parce que moi, j'ai pas gagné au loto. Hein, j'ai dû vraiment trouver des partenaires pour me financer le projet.
J'ai vu que ça a coûté 100 000 euros.
Ouais, le total de l'expédition, c'est 100 000 euros. Pourquoi ? Parce que l'Antarctique, c'est tellement difficile d'accès que ça coûte très, très cher, en fait, d'y aller et de revenir du pôle Sud. C'est vraiment la majorité du budget est consommée pour aller en Antarctique et revenir du pôle Sud. Et donc moi, quand je prépare ce projet-là, je souhaite assumer le fait que c'est un rêve. Il se trouve que quand je fais mon expédition, très très rapidement dans mon aventure, je me retrouve confronté à un phénomène climatique et environnemental totalement inédit pour le continent, qui est une canicule, une vague de chaleur inédite. Moi, j'étais prêt au froid extrême, au vent, à la solitude. Et finalement, dans les premières semaines de mon expédition, eh bien, moi, je me retrouve face à des températures qui sont 20 degrés au-dessus des normales de saison. Donc en fait, pendant plusieurs semaines, j'ai des températures qui sont aux alentours de 0 degré. Et ça, c'est un vrai problème parce que le fait qu'il fasse chaud en Antarctique, le fait qu'il fasse chaud d'ailleurs dans les mondes polaires en règle générale, eh bien, ça entraîne quelque chose d'un peu contre-intuitif, mais ça entraîne des chutes de neige très importantes. En fait, il faut comprendre que l'Antarctique, c'est un continent qui est entouré d'un océan qu'on appelle l'océan Austral. Et le fait qu'il fasse chaud, eh bien, ça entraîne une évaporation plus importante de cet océan. Et donc, l'évaporation de cet océan provoque de l'humidité. Cette humidité, elle provoque des nuages et donc des précipitations au-dessus de l'Antarctique. Et donc le fait qu'il fasse chaud, eh bien ça entraîne des chutes de neige plus importantes sur le continent antarctique. Quand, je le précise, l'Antarctique, en moyenne, ça reçoit moins de précipitations que l'Afrique. L'Antarctique, c'est un continent très sec. Et moi, je reçois tous les jours 20, 25, 30 cm de neige fraîche, tous les jours, sur ma tente, devant mes skis, quand en fait, il n'est pas censé neiger vraiment. Et ça, moi, ça me ralentit énormément, puisque le traîneau, qui est très lourd, eh bien, il s'enfonce dans la neige poudreuse, il s'enfonce dans la neige fraîche. Moi, mes skis, ils agrippent plus du tout la surface comme ils devraient le faire. Et donc, en fait, je parcours, il y a des jours, je fais 7, 8, 9, 10 kilomètres, quand il faut que j'en fasse 15 ou 20 pour atteindre mon objectif du pôle sud en 50 jours. Parce que moi, j'ai pris 50 jours de nourriture, j'en ai pas 70. Et il me faudrait, à ce rythme-là, peut-être 70 jours d'autonomie pour atteindre mon objectif. Donc, très rapidement, moi, dans mon expédition, je remarque que ça va être beaucoup plus dur que ce que j'ai imaginé, ça va être beaucoup plus long aussi que ce que j'ai imaginé, et surtout, si je suis pas plus rapide, s'il continue de neiger de telle sorte, ben en fait, je vais pas y arriver. Et donc, moi, face à ce défi, bon, j'ai appliqué deux stratégies qui sont révélées être payantes. La première, c'est que j'ai choisi et j'ai commencé à me rationner très tôt, donc rationner ma nourriture. Ça voulait dire mettre de côté de la nourriture tous les jours pour pouvoir être autonome sur la glace plus longtemps. Mais surtout, j'ai choisi de skier beaucoup plus. Et donc, au début, moi, je pensais skier 8-9 heures par jour. Et en fait, ce que je t'ai expliqué, c'est que j'ai commencé à skier beaucoup plus longtemps, donc 10 et ensuite 12 heures tous les jours, sans prendre un seul jour de repos, alors que j'en aurais pris un si les conditions avaient été bonnes. Donc il a fallu skier beaucoup plus longtemps pour atteindre donc ce fameux pôle sud, et j'ai réussi après 51 jours, mais ça a été quand même vraiment une course contre la montre. Et tout ça pour dire que cette canicule, cette vague de chaleur qui a duré pendant plusieurs semaines, bah moi ça a fait un électrochoc, quoi, parce qu'évidemment le réchauffement climatique, je connaissais, j'y étais sensible, mais le fait de le vivre directement en Antarctique, dans un milieu qui est quand même très très loin de toute activité humaine, bah ça m'a, enfin j'ai pris conscience que voilà le climat de la Terre était vraiment détraqué, quoi, jusque dans nos pôles, et ça m'a donné, je crois, le fait de vivre ça, une forme de responsabilité pour témoigner de ce qui se passe dans les pôles. Il y a tout un tas de scientifiques évidemment qui travaillent sur ces sujets-là, et moi je suis pas un spécialiste de l'environnement ou du climat, mais je crois qu'on a vraiment besoin de ces scientifiques qui produisent de la science, des rapports, qui alertent. Et on a besoin aussi peut-être de communicants, de témoins, d'ambassadeurs, de gens comme moi qui peuvent faire le lien entre ces scientifiques qui produisent de la science et le grand public qui a besoin peut-être de se rattacher à cette science-là par des documentaires, par de la présence dans les médias, par des podcasts, par des expéditions, par des conférences que je donne beaucoup dans les écoles, par des conférences dans les entreprises aussi. Et donc le rôle, la mission que je me suis donnée, c'est ça, c'est de relier la communauté scientifique et le grand public par des films documentaires, par des expéditions. Et ce point de départ de cet engagement, ça a été cette expérience de cette canicule en Antarctique quand je faisais mon expédition vers le pôle.
Mais surtout que les scientifiques, aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de relais.
Tout à fait.
Que le fait que tu puisses en parler, les gens s'intéressent d'abord à l'aventure, tu vois, comme à travers le podcast, et ensuite ils sont sensibilisés au réchauffement climatique. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire, tu vois, avec Impact Story, c'est sensibiliser de manière indirecte,
ouais,
via différents sujets. Donc là aujourd'hui, c'est l'aventure, mais avant on avait reçu Lucie Lucas, donc c'était via le cinéma.
D'accord.
Et je trouve que ça permet justement de sensibiliser de manière indirecte, et c'est peut-être un peu plus fort pour certaines personnes.
Bah, moi, je crois que c'est primordial. Tu dis, je trouve ça dramatique que les scientifiques soient pas écoutés et que personne ne s'intéresse un peu plus à ce qui se joue aujourd'hui sur notre planète. Et je crois qu'on a besoin de toucher tout le monde dans tous les secteurs d'activité. On a besoin de convaincre encore un peu, malheureusement. Et ça passe par l'émotion, ça passe par de l'information, ça passe par de la vulgarisation scientifique. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes expéditions, mais je le fais aussi avec un fonds de dotation qui s'appelle Témoins Polaires et qui est spécialisé justement dans cette sensibilisation sur la perte et la fonte de la cryosphère. La cryosphère, c'est toutes les surfaces glacées de notre planète, donc les glaciers, les banquises, les calottes polaires, donc l'Arctique et l'Antarctique. Et avec ce fonds de dotation, on est très investi pour justement agir auprès de la jeunesse et du grand public, et donc je le fais avec eux régulièrement et avec les expéditions et les conférences.
Et depuis cette expédition, de ce que j'ai compris aussi, c'est que maintenant tu continues à en faire d'autres, mais que tu le fais en partenariat avec des glaciologues, c'est ça ?
Ouais, exactement. Alors comme moi je suis pas glaciologue et scientifique, j'essaye de m'entourer de spécialistes sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est vraiment de raconter ce qui se passe sur ces calottes polaires ou dans ces glaciers. Et donc pour donner deux exemples, on est parti par exemple réaliser un film documentaire sur la fonte des glaciers alpins en traversant les Alpes en ski de randonnée avec une guide de haute montagne, un écrivain voyageur et une glaciologue. Et donc on est parti de Chamonix jusqu'à Zermatt et on a fait tout un tas de mesures sur les glaciers qu'on a nous en France et en Suisse pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans nos Alpes. On sait que les glaciers reculent, on essaye d'expliquer pourquoi c'est un drame et en quoi ça va nous impacter nous tous, pas seulement les Alpes mais toutes les régions aux alentours et au-delà. Et donc l'idée, c'est vraiment de relier l'aventure avec des sujets environnementaux, climatiques, avec des spécialistes. Donc moi, mon rôle, il consiste à voilà rassembler ces équipes-là et à monter ces expéditions ou ces films. Il y a eu donc ce film qu'on a appelé La Haute Route au fil des glaciers, mais il y en a eu un autre plus récent où là, on est allé raconter l'histoire d'un glacier qui s'appelle le glacier Fetchenko, qui est le plus long glacier de montagne du monde. Il est situé en Asie centrale, plus précisément au Tadjikistan. Et ce glacier, c'est une réserve d'eau pour l'Asie centrale. En fait, l'Asie centrale, ce sont tous ces pays en stan, tu sais, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Ce sont des pays ultra-continentaux dans lesquels il pleut quasiment jamais. Et la seule raison pour laquelle, eh bien, il y a de l'agriculture, il y a de la culture, il y a des gens qui y vivent, c'est parce qu'il y a de l'eau qui tombe non pas du ciel, mais qui arrive des montagnes et des glaciers et qui alimente tout un réseau de fleuves comme la Moudaria, le Sirdaria. Et donc nous, on est allé montrer le lien en fait qui existe entre ces glaciers de haute montagne qui sont à l'abri des regards, qui sont très loin en fait des villes en aval. Et on est allé montrer en fait le lien très ténu et existentiel qui existe entre ces glaces et les villes en aval. Et on est parti aussi d'un drame écologique qui est donc la perte, la disparition de la mer d'Aral. T'en as peut-être entendu parler, c'est une mer qui a été asséchée pour des raisons économiques et politiques. Et cette mer, elle était alimentée par les glaciers, des glaciers qui alimentaient des fleuves et ces fleuves qui alimentaient cette mer, qui est une mer fermée. Et elle a été asséchée dans les années 70-80 par l'irrigation excessive pour la culture du coton. Et donc, il y avait beaucoup de pompage dans ces fleuves qui alimentaient cette mer et cette mer s'est rétrécie et aujourd'hui, elle est quasiment disparue. Donc, on est allé raconter un peu l'histoire de ce glacier, de la mer d'Aral, pour montrer en fait que nos glaciers, ils sont absolument primordiaux et indispensables pour la vie humaine.
Et aujourd'hui, du coup, comment t'occupes ton temps ?
Bah moi, j'occupe mon temps. Moi, c'est l'aventure qui me fait courir. Mais aujourd'hui, mon activité, c'est une activité multicasquette parce que pour faire des expéditions, il faut les préparer. Donc, il y a un long temps de préparation. Ça veut dire de convaincre des partenaires, des sponsors à travailler avec nous. Faire ces expéditions, il faut aussi les valoriser. Donc, ça, moi, je passe beaucoup de temps aussi à valoriser ces projets-là à mon retour. Donc, ça veut dire faire de la présence dans les écoles pour expliquer un petit peu ce qu'on a vécu et ce qui se passe dans les pôles. Ça veut dire aussi faire des films. Ça veut dire aussi écrire dans la presse spécialisée. Ça veut dire aussi raconter tout ça comme à ton micro. Donc ça prend du temps. Donc moi, j'ai autant une casquette de d'entrepreneur parce qu'il faut trouver des moyens de valoriser les projets, autant une casquette d'auteur parce que je passe du temps à écrire sur ces aventures-là, que de réalisateur parce que on fait des films documentaires aussi. Donc voilà comment j'occupe mon temps, c'est à la fois la préparation des expéditions, vivre les expéditions, qui est en fait une petite partie de mon emploi du temps, et puis après valoriser au retour tous ces projets-là par tous ces canaux que je t'ai évoqués, les conférences, les films, les podcasts et l'écriture.
Et je voulais te poser la question parce que je me pose la question depuis tout à l'heure, mais pendant ton expédition au Pôle Sud, quand tu voulais aller aux toilettes, tu faisais comment ?
C'est la fameuse question qui revient. Les toilettes, quand il fait moins 40, c'est pas simple. La réponse, si on peut pas se retenir et qu'on est dehors, c'est le plus rapidement possible. Il n'y a pas trop de secrets. Il faut regarder un peu d'où vient le vent et se mettre dos au vent et peut-être un peu protégé avec son traîneau. Le mieux, c'est vraiment d'être à l'intérieur de sa tente. Pourquoi ? Parce que la tente, elle protège du vent. Elle crée aussi un effet de serre. Et donc, il peut faire beaucoup plus chaud à l'intérieur de la tente que la température extérieure. Beaucoup plus chaud, c'est parfois 20 degrés de plus. Donc, on est quand même vachement plus à l'aise pour faire ce qu'on a à faire. Et puis, il y a une petite partie dans cette tente où on est en contact direct avec la neige. À l'entrée de la tente, il y a un petit sas. Et donc là, on peut creuser un trou, faire ce qu'on a à faire. Ça gèle très rapidement. C'est le seul déchet qu'on puisse laisser derrière soi quand on fait une expédition comme ça, à sa propre force en Antarctique. Et donc, voilà, ça se passait assez bien.
Ok. Bon, on va pas finir sur cette question quand même. Mais je me posais... j'étais obligé de la poser. Et du coup, c'est quoi pour toi avoir de l'impact ?
Avoir de l'impact, c'est pour moi être acteur, être actif sur sa zone d'influence. C'est pas moi qui le dit, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Etienne. Je sais pas si ça te parle, mais Jean-Louis Etienne, c'était le parrain de mon expédition en Antarctique. C'est un monsieur qui a fait tout un tas d'expéditions polaires, qui était le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. C'est un mec, moi, qui m'a énormément inspiré. C'est un très bon pédagogue, c'est un vulgarisateur de la science aussi. C'est un fervent défenseur de l'environnement. Et Jean-Louis, il dit ça. Il dit, soyez acteur et actif sur votre zone d'influence. On a tous une zone d'influence. On est parent, on est frère, on est mari, on est femme, on est chef d'entreprise, salarié. On est tous entourés par des gens. Et je crois qu'on a tous une zone d'influence. Et donc, je pense qu'avoir de l'impact, c'est ça. C'est vraiment prendre conscience qu'on est capable d'avoir de l'influence sur nos réseau. Et donc, voilà, on n'est pas tous Bill Gates ou Obama ou président de la République. Donc, on a pas tous la même influence, mais on en a tous une. Et je crois que c'est important d'en prendre conscience. Et si on est chacun acteur, eh bien, on fait tous partie de la solution. Et je crois qu'il faut vraiment, voilà, prendre conscience de ça, d'être acteur sur sa zone d'influence.
J'aime beaucoup. Enfin, vraiment, je pense que c'est l'une de mes réponses préférées parce qu'elle montre vraiment que, enfin, tout le monde à de l'impact dans, justement, comme tu dis, sa zone d'influence.
Bien
et
sûr.
Que c'est pas réservé, tu vois, à une poignée de personnes, à une élite.
Ouais.
Et qu'en fait, finalement, chacun peut faire quelque chose dans son domaine, tu vois.
Tout à fait.
Donc, super, j'aime beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Vous êtes encore là ? Ah, trop bien, j'ai encore un truc à vous dire. Alors si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager et surtout à nous mettre 5 étoiles. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper important. Alors, je compte sur vous.